9h sur France Culture, le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il est trop tôt pour évaluer les conséquences du rejet de l'accord de Brexit par les parlementaires britanniques. C'est ce qu'affirme ce matin Michel Barnier, le négociateur européen en charge de mener les discussions sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Hier soir, c'est à 432 voix contre et 202 pour que les députés britanniques ont donc rejeté l'accord négocié entre la première ministre Theresa May avec Bruxelles, faisant ainsi planer des doutes sur la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE, initialement prévue le 29 mars prochain. Une débâcle pour Theresa May, analysée par toute la presse britannique ce matin, Claude Guibal.
À la une des journaux, cette photo de Theresa May, quelques secondes après le camouflet. Elle a le visage marqué, les épaules comme affaissées, et il y a ces mots en première page du quotidien pro-Brexit, The Daily Mail, Theresa May humiliée, écrasée. Son maintien ne tient plus qu'à un fil, écrit le journal, avec ce résultat jugé catastrophique, ce résultat qui menace de plonger la sortie de l'Union européenne dans le chaos. Pas d'accord, pas d'espoir, pas le début d'une piste, pas de confiance, écrit encore le Mirror, qui éreinte la première ministre britannique. Elle porte, selon lui, la responsabilité de la guerre civile, ce sont les termes du journal. Guerre civile qui déchire le parti conservateur au lendemain de ce vote et alors que le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn appelle ce soir au vote d'une motion de censure. Nous savions tous que ça arriverait, écrit Dominic Sandbrook dans le Mirror, mais ce que nous n'imaginions pas, dit-il, c'est à quel point cette défaite serait vertigineuse. Tous les médias, la BBC en tête, questionnent désormais les scénarios du futur. Une sortie sans accord, l'annulation du Brexit, un deuxième référendum, une extension de la période des négociations. Après cette incroyable défaite, notre pays est perdu et à la dérive, écrit Le Guardian, quotidien anti-Brexit bien sûr, qui fustige un Parlement paralysé par son indécision, incapable d'embrasser l'Union européenne, mais tout aussi incapable de la quitter.
No man is an island, aucun homme n'est une île, tout homme fait partie d'un continent, ces mots de John Donne, c'est l'écho poétique évoqué encore ce matin par Claude Guibal dans la revue de presse internationale à retrouver sur franceculture.fr. Et puis au lendemain donc de cette écrasante défaite pour Theresa May au Parlement britannique, la première ministre est aujourd'hui menacée par une motion de censure déposée par l'opposition travailliste. La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla reprend ses auditions cet après-midi. Après les révélations d'avant Noël sur les passeports diplomatiques qu'a continué d'utiliser l'ancien chargé de mission de l'Élysée, bien après son licenciement et sa mise en examen pour violence. Les sénateurs vont notamment entendre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à la fois sur les multiples passeports professionnels d'Alexandre Benalla et sur un téléphone crypté que Patrick Strauda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, aurait oublié de réclamer à Alexandre Benalla, selon le Canard enchaîné à lire ce matin. Un téléphone capable de passer des communications secret défense que l'ex-chargé de mission de l'Élysée aurait gardé pendant des mois. Par ailleurs, un quatrième passeport dit de service aurait été donné en juin dernier à Alexandre Benalla, c'est-à-dire plus d'un mois après les violences du 1er mai qui ont valu une mise en examen. Aucun commentaire hier soir de l'Élysée, mais le sénateur Les Républicains François Grosdidier compte bien poser des questions aujourd'hui sur ces nouvelles révélations du Canard enchaîné et il dénonce ce matin un mensonge d'État sur le rôle effectif d'Alexandre Benalla. Les Républicains vont lancer une consultation auprès de leurs militants pour peser dans le grand débat national lancé hier par Emmanuel Macron. 7 heures de questions-réponses face à 600 élus de Normandie où le chef de l'État a évoqué un aménagement possible de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Eux aussi veulent se faire entendre dans le grand débat national. Les agriculteurs élisent à partir de cette semaine leurs représentants au niveau départemental et régional dans un contexte bien particulier. Cette année, un monde agricole affaibli dans une France secouée par le mouvement des Gilets jaunes Anne-Lorchouin.
Lorsqu'on demande au président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture si les agriculteurs sont mobilisés pour aller voter, il répond à un pas plus que ça désabusé, Claude Cochonneau.
Nous sommes le réseau professionnel où il y a la plus forte participation. On entend bien entretenir cette forte participation. Par contre, il y a un élément un peu nouveau, le phénomène d'agribashing, qui est un peu nouveau aujourd'hui. C'est loin d'être ma première campagne. C'est la première fois que je rencontre ce phénomène dans le cadre d'une campagne. C'est aussi pour nous un argument supplémentaire pour dire à nos collègues, allez-y voter. Parce qu'en votant, vous exprimez aussi votre volonté d'être une profession reconnue et qui ne mérite pas toutes les critiques dont elle fait l'objet.
L'abstention guette donc, et cette abstention attention, les deux syndicats agricoles minoritaires comptent en profiter. La coordination rurale, comme la Confédération paysanne, se disent proches des revendications des Gilets jaunes et ils espèrent que la volonté de dégagisme d'une partie d'entre eux jouera aussi chez les agriculteurs contre le syndicat majoritaire et puissant. Ces agriculteurs qui, même s'ils ont vu leurs revenus se redresser un peu en 2018, craignent d'autres dangers à moyen terme, les crises sanitaires comme la peste porcine, les aléas climatiques comme les inondations et la nouvelle PAC de 2020 qui pourrait leur être beaucoup moins favorable.
Le temps de ce mercredi 16 janvier partagé entre grisaille et éclaircie, au meilleur de la journée, il fera entre 4 et 9 degrés de la Franche-Comté à la Normandie, 8 à 14 degrés en général partout ailleurs, d'ouest en est. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Thomas Cluzel.